Make some
noise. Bonjour, je m'appelle Armel M. Dans ce podcast, nous partons en quête chaque semaine d'infos qui ne dépriment pas trop. Les chaînes d'infos, c'est bien, les JT de 20h, c'est très bien, mais un podcast d'information pour rester calme, ça peut parfois faire du bien. Nous sommes le 19 mars 2024. Restons calmes.
Vladimir Poutine, 87% des voix.
Le Financial Times voit se profiler un nouveau mandat lourd de menaces. Wacket Serra ironise sur cette Russie. Pour le moment, tout est toujours sous contrôle au Kremlin. Rien de nouveau à l'Est, résume le site d'info burkinabé.
Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
Rien de nouveau à l'Est, apparemment, c'est ce que dit la presse. On peut donc passer directement à d'autres sujets, des sujets un peu moins flippants. Au sommaire de ce nouvel épisode, une fissure en Islande et de la lave qui en sort. Des feux zombies au Canada. Agathe Lévesque, qui n'a pas peur des zombies, nous dira de quoi il s'agit. Des panneaux solaires comme s'il en pleuvait. Une semaine de l'éducation financière. Les pouvoirs de la biodiversité face au changement climatique. Et bien d'autres choses encore.
Restons calmes. Un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
Vous sentez cette odeur ? C'est l'odeur de l'argent. Nous sommes en plein dans la semaine de l'éducation financière qui se tient jusqu'au 24 mars. Global Money Week, c'est une campagne mondiale annuelle de sensibilisation des jeunes aux questions d'argent et de finances. Et il y a du boulot dans ce domaine car bien souvent, les enfants ne connaissent pas grand-chose à l'argent. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Bourse de Paris ?
Non.
Le CAC 40 ?
Je sais même pas c'est quoi.
Pour cette 12e édition, la semaine de l'éducation financière se décline sur le thème « Protège ton argent, assure ton avenir ». On sait que les enfants préfèrent claquer leur fortune dans des bonbons au lieu d'épargner et ça n'est pas comme ça qu'on assure son avenir. Interrogé par Le Parisien, un jeune homme confie « Les Twix, c'est incroyable et c'est 2,25€ le paquet de 10 !» 2,25€ et qu'il pourrait épargner, mais non, il préfère visiblement les manger. À l'occasion de la semaine de l'éducation financière, le journal Le Parisien s'est rendu dans une classe. Les élèves participaient ce jour-là à l'opération « J'invite un banquier dans ma classe », une initiative de la Fédération bancaire française. Répartis en 5 équipes autour d'un jeu de plateau spécialement conçu, ils devaient répondre à des questions sur le budget, les achats, les paiements. L'objectif, c'est de leur donner des clés de compréhension adaptées à leur âge afin qu'ils soient autonomes dans leur vie quotidienne, explique Maya Attig, directrice de la Fédération bancaire française. Selon le baromètre de l'éducation financière réalisé par Harris Interactive sur un échantillon d'enfants de 8 à 14 ans, 44% des 8-14 ans reçoivent de l'argent de poche, la plupart du temps en liquide, une moyenne de 29€ par mois. Alors qu'est-ce qu'ils achètent ces 8-14 ans ? Ils privilégient l'achat de livres, BD ou manga à 38%, de jouets 37%, de bonbons 36%, devant les vêtements 27% et les jeux vidéo 26%. Mais revenons à l'opération « J'invite un banquier dans ma classe ». Une banquière, hein, en l'occurrence, ce jour-là. Petit à petit, les questions abondent dans la classe, et c'est Le Parisien qui nous raconte encore. Ça veut dire quoi, être dans le rouge sur son compte ? Oh, bah tu le sauras bien assez tôt. Hein. Voilà, les jeunes apprennent dès le plus jeune âge à bien gérer leur argent. Une bonne nouvelle pour les banques, hein, je pense.
En France notamment, vous avez des patrons qui disent « l'environnement économique se dégrade, je vais peut-être pas investir sur l'avenir ».
Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution.
Restons calmes.
Marion Armango, fondatrice du studio de création de podcast « Make Some Noise ». Bonjour.
Bonjour Armel.
C'est la semaine de l'éducation financière.
C'est ma semaine finalement.
Toi, c'est vraiment ta passion, hein, tout ce qui touche la thune, la finance, l'argent bien sûr. Est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose aujourd'hui ?
Je vais vous apprendre plusieurs choses. J'ai fait une petite sélection de contenus culturels qui parlent de thune, puisque c'est le sujet de la semaine et puis que c'est mon sujet en général. Et on commence par un podcast, un bien nommé podcast qui s'appelle tout simplement Thune, qui va vous interroger, vous informer et voire même vous surprendre. Chaque jeudi, c'est les journalistes Laurence Velli, à qui on doit notamment le podcast Les Déviations, et Anna Borel, qui questionne un invité sur ce qu'il possède, ce qu'il gagne et ce qui lui manque aussi. Parmi les thèmes qui ont récemment été abordés pour vous donner un petit aperçu des épisodes, il va y avoir quand l'héritage pèse trop lourd, entretenir une demeure familiale à 6 millions d'euros.
Mmh. Ouais, difficile. C'est un problème ça.
Ouais, envoyer de l'argent au pays, petite somme, grosse pression, ça c'est un vrai problème aussi dont on parle très peu. La cigale et la fourmi dans un couple, comment gérer Ça, on en a déjà tous entendu parler. C'est rigolo de l'avoir en podcast.
Ouais.
Femme et argent, pourquoi penser séparation alors qu'on vient de se mettre en couple? Bah ouais, c'est pas mal quand même dès le démarrage de se poser les bonnes questions. Le podcast, il s'appelle donc Thune. Il permet de faire plein de projections et de se poser des questions auxquelles on n'aura sans doute jamais à répondre. Genre, comment les riches font-ils pour rester très riches? Et puis au contraire, de s'interroger sur ce qui nous concerne tous. L'argent, donc dans le couple par exemple. Ce qui m'a fait penser à une théorie dont on a entendu parler il y a quelques mois déjà. La théorie du pot de yaourt. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Non, j'avoue que je ne connais pas la théorie du pot de yaourt.
Eh bien, je vais tout expliquer, Armelle, elle n'est pas de moi. La théorie du pot de yaourt, ça montre comment le couple accentue les inégalités dans la vie à deux, comment évidemment ça appauvrit plus les femmes et enrichit plus les hommes. Partout dans le monde, à poste égal, les femmes sont bien moins payées que les hommes. Ça, on a tous bien intégré l'info, même s'il n'y a pas grand-chose qui change. Le déséquilibre, il est historique, structurel, culturel, on ne va pas la refaire non plus. De manière générale, on rappelle quand même que l'écart de rémunération est de 23%, ce qui n'est pas rien. Et donc, le couple accentue encore ces inégalités. C'est ce qu'a théorisé l'essayiste et romancière Titiou Lecoq dans un livre qui est sorti en 2022, il me semble, qui s'appelle « Le couple et l'argent » et qui a donc appelé la théorie du pot de yaourt pour démontrer très simplement les choses. Qu'est-ce qui se passe dans un couple? Bien souvent, l'homme va mieux gagner sa vie que la femme et donc va amortir les grosses dépenses, la voiture, la maison... tandis que le petit salaire de la femme, eh bien, il va servir au quotidien, aux courses, à l'alimentation. Jusqu'ici, tout va bien. On a même une démarche qui paraît assez généreuse de la part de l'homme. Sauf qu'en cas de séparation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme repart avec la bagnole et la maison, et la femme repart avec son petit pot de yaourt qui a été mangé par les enfants, bien évidemment, puis par toute la famille, donc un petit pot de yaourt bien vide. C'est une manière très simple d'expliquer comment, au sein du couple et sans s'en apercevoir, et parfois avec des bonnes intentions, eh bien, monsieur consolide son patrimoine pendant que madame s'appauvrit. Et enfin, une dernière référence pour parler des thunes. Aux thunes citoyennes, un livre qui vient de sortir pour renforcer le pouvoir économique des femmes. C'est sorti donc en début d'année par Insaf El Hassani et Héloïse Boll, qui livrent des clés essentielles pour les femmes sur les droits économiques, un manuel d'action pour toutes celles qui souhaitent défendre leur juste valeur, notamment sur le marché du travail. Insaf El Hassani, elle est dirigeante de Ma Juste Valeur, justement. Et Héloïse Boll, elle est aux commandes de la société de conseil financier Oseille et Compagnie. Elles sont engagées au quotidien dans la lutte pour les reconnaissances des droits et des libertés féminines. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'elle propose? Des simulations de situations concrètes, des quiz, des conseils pour négocier son salaire. À travers leur livre, elle donne tous les outils pour la réussite professionnelle et financière aux féminins, aux thunes citoyennes, au travail et à la maison. Prenez le pouvoir sur votre argent. Ça vient de sortir. Et mesdames, il est grand temps qu'on prenne en main nos épargnes.
Et est-ce que tu as déjà compris les paroles du tube de téléphone « Argent trop cher » ?
Bien.
Tu l'as ce morceau
ouais,
ou pas
ouais. Ouais,
je dis argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Et ces paroles n'ont pas de sens.
Putain, je vais l'avoir dans la tête toute la journée, je te remercie.
Avec plaisir.
Ouais.
Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi.
Les nouvelles sont mauvaises, l'info nous fatigue et puis le ciel est gris. Restons calmes. Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu.
Avant de retrouver Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la génération énervée. En bref, quelques bonnes nouvelles. C'est la semaine de l'éducation financière, alors éduquons-nous grâce aux pages économie du Figaro.
Bonne nouvelle !
Le marché de l'or se porte à merveille. L'or brille de mille feux, s'enthousiasme le Figaro. L'once d'or, qui sert de référence internationale, c'est 31 grammes d'or, un once d'or. L'once d'or a flirté ces derniers jours avec la barre des 2 200 $, du jamais vu. Alors pourquoi cette euphorie autour de l'or? C'est surtout lié à l'appétit insatiable des banques centrales qui achètent et stockent et achètent encore plus, des achats d'or liés à la volonté de certains pays comme la Chine, la Russie ou l'Inde de limiter leur dépendance au dollar. L'or peut être considéré comme une devise universelle qui n'est pas liée à un pays. C'est une monnaie qui n'appartient à personne et qui ne peut pas faire faillite, c'est ce qu'explique un analyste dans le Figaro.
Bonne nouvelle!
Les panneaux photovoltaïques poussent sur les toits des entreprises. surprise. L'année dernière, les installations photovoltaïques, les panneaux solaires, ont progressé de 40% dans les entreprises avec quasiment 1,5 gigawatt de projets raccordés en France. C'est environ un tiers du marché de l'autoconsommation. La motivation, elle est d'abord économique. En moyenne, ces centrales solaires permettent de faire de 20 à 25% d'économie sur la consommation d'électricité du site. Et puis, ces installations sont aussi l'occasion de verdir un peu un bilan énergétique.
Bonne nouvelle.
Une plus grande biodiversité permet aux forêts de mieux résister aux effets du changement climatique et de contribuer à assurer les mêmes services. C'est ce qu'écrit Science et Avenir. Quand il y a plus de biodiversité, on peut maintenir un même fonctionnement de l'écosystème malgré des conditions climatiques plus extrêmes. En favorisant une plus forte biodiversité, on peut atténuer les conséquences du changement climatique. C'est ce que résume Stefan Hattenschwiller, directeur de recherche au CNRS, qui a participé à ces deux études.
Restons calmes.
Elle, rien ne peut atténuer son agacement, voire son énervement. C'est Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la génération énervée, et qui n'aime pas trop les zombies.
You have stolen my dreams, my childhood with your empty words.
Génération énervée.
How dare you?
On connaît toutes et tous la figure du zombie. Dans les films de science-fiction, le zombie, c'est le mort-vivant qui revient se nourrir de chair fraîche, faisant de lui une figure assez terrifiante de l'imaginaire collectif. En général, accoler ce mot à n'importe quoi comme un adjectif, c'est pas super bon signe. Alors quand j'ai vu cet article du Parisien titré « Incendie zombie au Canada, malgré la neige, des dizaines de feux brûlent encore sous terre », eh ben j'ai d'abord eu un moment d'interrogation, suivi juste après d'une petite panique. Parce que je sais pas toi Armel, mais moi, jusqu'à la semaine dernière, je connaissais pas les incendies zombies.
J'avoue, je connaissais pas cette charmante expression, non ?
Ce terme désigne en fait des feux brûlant lentement, mais en continu, sous la surface de la Terre, le plus souvent dans des sols tourbeux. Ils peuvent même parfois se situer à 1 mètre de profondeur, et quand bien même le sol serait, lui, recouvert d'épaisses couches de neige. C'est ce que constatent les pompiers de l'Ouest canadien en ce moment, alors même que les derniers grands incendies qui ont ravagé la région dataient de l'été dernier. Parce que oui, en fait, ce sont les mêmes feux, des restes sourds, plus discrets, mais tout aussi prêts à déclencher de nouveaux brasiers une fois les beaux jours de retour. Ce phénomène en lui-même n'est pas nouveau, n'est pas anormal. En revanche, ce qu'il est, c'est sa quantité. Ces 10 dernières années, la région de la Colombie-Britannique a connu environ 5 ou 6 feux de ce type, perdurant pendant les mois d'hiver. Cette année, par contre, en janvier, ce sont 106 feux zombies qui étaient référencés comme actifs. En février, à Alberta, la région voisine, les pompiers en dénombraient 57. Alors pourquoi cette année est-elle particulièrement terrible ? Tout simplement à cause de la sécheresse des sols qui perdure depuis plus de 2 ans. Le Canada n'est pas le seul à faire face à ces feux zombies. En France, la Gironde doit elle aussi gérer ce problème. 18 mois après les incendies qui ont détruit pas moins de 30 000 hectares de forêt, on peut encore voir des fumées blanches s'échapper de certaines parties du sol, trahissant l'existence de ces feux zombies. Même les grosses pluies des dernières semaines n'ont pas réussi à les éteindre. À première vue, entre ces feux qui persistent, la sécheresse des sols et le retour du phénomène El Niño, grosso modo un événement climatique qui entraîne un réchauffement planétaire, tous les indicateurs sont au vert pour une saison des incendies encore bien active. Et pendant ce temps, on n'oublie pas, non, on n'oublie pas, que les actions mises en place au niveau étatique global et national pour lutter contre le réchauffement climatique et se préparer à ses impacts actuels mais aussi futurs ne sont toujours pas suffisantes, loin de là. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui l'a encore dit dans un rapport publié mardi dernier.
Génération énervée.
Les rapports de la Cour des comptes à lire chaque soir avant d'aller se coucher, c'est parfait pour se détendre en général. Après les feux zombies, ces feux qui brûlent à bas bruit sous le sol, on va changer complètement de sujet avec les éruptions volcaniques. Tiens.
Vu du ciel, c'est une toile incandescente. Dans le sud-ouest de l'Islande, une nouvelle faille volcanique s'est ouverte. Une fissure dans la terre laisse jaillir de la lave sur plusieurs kilomètres de long.
Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
Je vous ai promis au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en écoutant ce podcast d'info. On fera le bilan à la fin pour voir si la promesse est bel et bien tenue. Mais d'abord on danse. Contre la dépression, encore mieux que bouger, il faut danser. C'est le titre d'un article du Monde que je m'apprête à vous raconter sur cette ère de danse traditionnelle. C'est une farandole, je crois bien. L'activité physique régulière a des effets positifs sur la dépression, rappelle Pascal Santi dans Le Monde. Elle est validée comme thérapeutique par la Haute Autorité de Santé, seule ou en association avec des médicaments ou une psychothérapie. L'analyse de 218 études, une méta-analyse publiée en février, confirme tout ça. Un travail portant sur 14 170 patients de plus de 18 ans souffrant d'un trouble dépressif majeur. Les auteurs se sont penchés sur l'intensité et les modalités d'activité physique les plus performantes en les comparant avec une psychothérapie. Selon cet article, les sports les plus efficaces sont la marche ou le jogging, le yoga et le renforcement musculaire, en particulier lorsque ces activités sont intenses. Et la danse ? La danse semble être un traitement prometteur contre la dépression plus que les autres activités, expliquent les auteurs avec quand même un bémol, le petit nombre d'études consacrées à ce sujet. Mais justement, une autre méta-analyse intégrant 1390 personnes montre que la danse, qu'elle soit en solo, en couple ou en groupe, améliore le bien-être psychologique et la capacité cognitive. Un programme de danse structuré d'une durée d'au moins 6 semaines a des effets positifs sur le bien-être émotionnel, la dépression, la motivation, la cognition sociale et certains aspects de la mémoire. C'est ce que détaille un communiqué de l'Université de Sydney. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure de la farandole. Avant de faire le bilan de cet épisode de Restons Calmes, un bonus d'Agathe Lévesque en direct de la plateforme X.
Oup, oup. Le bonus de la semaine est sponsorisé par les commentaires bien débilos sur X. J'ai eu la riche idée de retourner sur X la semaine dernière pendant quelques jours et il m'a pas fallu longtemps avant de me rappeler pourquoi je n'y allais plus. Exemple concret, C'est à vous diffuse un extrait d'une émission où la journaliste de sport Marie Portolano dit regretter d'avoir ri à des blagues sexistes qu'on a pu lui faire dans des rédactions. Des blagues comme par exemple celle-ci, balancée par un rédac-chef dans un couloir, qui lui a dit « T'as un cul, je suis sûre qu'on est bien dedans ». Blague que la journaliste Elisabeth Lemoine cite en précisant que c'est la seule qu'on peut à peu près dire à une heure de grande écoute. Alors, elle me paraît déjà bien immonde, alors j'ai même pas osé imaginer les autres exemples. Et donc en commentaire, des internautes, des mecs hein, forcément, font ouin ouin avec des réponses du style « En espérant qu'il n'y ait pas d'humoriste dans votre entourage. Dites la police du rire, on peut faire des blagues sur qui et sur quoi alors ?» Ou encore « Ça va être gay le futur. Naviguer entre les inquiétudes et les insécurités des uns et des autres sans pouvoir plaisanter, c'est la fin. On va se faire chier. » Ce à quoi on peut aussi ajouter, pour avoir un tableau bien complet, des commentaires disant simplement « Elle est blonde » ou encore « Dinde ». Voilà, c'est navrant, c'est déprimant et surtout bien énervant de voir encore en 2024 des personnes s'autoriser ce genre de message public. Parce que certes, on est sur X, certes, on est dans des bulles de bulles de bulles, et en plus sur des sujets qui ramènent pas mal de trolls, mais quand même, il y en a toujours qui s'autorisent ce genre de remarques dont on se passerait volontiers.
Merci Agathe, voilà l'actu. Est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives.
5.
La danse est un traitement prometteur contre la dépression.
4.
Face au changement climatique, la biodiversité est notre allié.
3.
La France ne fait pas assez pour lutter contre le réchauffement, mais la Cour des comptes veille et rappelle l'État à ses devoirs.
2.
Les panneaux solaires fleurissent sur les toits des entreprises.
1.
C'est la semaine de l'éducation financière, une occasion en or de s'interroger sur les paroles de téléphone. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres infos détentes, entourées comme toujours d'une belle équipe très calme.